Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est une histoire d'amour toxique, mais est-ce vraiment de l'amour? La rencontre entre un homme et une femme sur la piste d'une rêve partie, puis la vie à deux empoisonnée par l'emprise et les humiliations jusqu'à l'ignominie et le traumatisme du viol conjugal. Et c'est dans le paysage mental du personnage féminin, entre traumatisme et résilience, entre les vertiges du chaos et l'issue dans la fuite, entre la réalité violente et la poésie du rêve, que nous emmène ce texte de Pauline Peyrade, monté par le collectif Das Plateau. La metteuse en scène Céleste Germe et la comédienne Maëlys Ricordo ont réussi le tour de force à travers un efficace dispositif multimédia de rendre visible l'invisible, de rendre audible les non-dits, de leur donner voix, de les faire résonner sur la scène et dans la tête des spectateurs. Le spectacle s'appelle Point, P-O-I-N-G-S. Il est à l'affiche à Paris, au théâtre Sylvia Montfort, jusqu'au samedi 4 mai et vous m'en direz des nouvelles. Céleste Germe et Maëlys Ricordo sont avec nous. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors c'est le deuxième texte de Pauline Peyrade que Das Plateau adapte. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'écriture de cette autrice, Céleste Germe?
Je pense que ce qui nous a frappé d'abord, parce qu'il y a eu une rencontre avec ce texte, donc avec Bois impériaux en premier et Point aujourd'hui, c'est la manière dont cette autrice arrive à être à la fois dans des sujets qu'on pourrait dire vraiment des sujets d'actualité, d'une très grande actualité, qui traversent la société tout entière, et en même temps arrive à inventer des dispositifs d'écriture, des formes, pour donner à entendre de ces sujets ce qu'on n'entend pas.
C'est-à-dire que cette complexité formelle du texte, qui est vraiment singulière, on va s'arrêter là-dessus évidemment, c'est un obstacle, mais c'est ça aussi qui vous motive dans votre travail de création ?
C'est un défi, je pourrais dire.
Un défi, oui.
Mais oui, c'est complètement ce qui éveille notre désir même pour le texte, je crois, et c'est aussi... C'est cette complexité formelle, cet agencement formel qui crée une voie pour la mise en scène, je crois.
Oui, c'est un petit peu comme avec l'Oulipo, quoi. C'est-à-dire, on se crée un obstacle pour mieux imaginer les moyens de le contourner et de faire avec, quoi.
Exactement.
Alors, le texte est édité par les Solitaires Intempestifs, Maëlys Ricordo. Quand on le feuillette, c'est vrai qu'avant même de le lire, avant même de s'intéresser au contenu, aux mots, on voit que c'est pas un texte de théâtre ordinaire, avec des répliques et des didascalies plus ou moins agencées de façon linéaire. L'agencement même des lignes montre qu'il y a une pluralité de voix. Parfois parallèles, parfois qui se chevauchent, parfois qui s'entremêlent, parfois qui se percutent. Ce texte-là, vous l'avez abordé comme une partition que...
Oui, complètement. Déjà, pour le lire, c'était déjà un enjeu majeur parce que c'était pas évident en le prenant dans les mains quand on le regarde. Et ensuite, il y a beaucoup de challenges pour une actrice dans ce texte et beaucoup de choses à chercher.
Vous l'avez lu, alors, justement, concrètement? Vous avez lu le premier personnage, le deuxième personnage, oui. Et ensuite le troisième. Enfin, on sait pas si il y en a deux ou trois, on va y venir dans un instant.
Ouais.
Mais vous avez été obligé de séparer les choses ou? Comment ça s'est passé, la première lecture?
On l'a pris comme il était, quoi. Donc, du coup, on a fait des tests pour voir ce que ça donnait. En tout cas, ce qui était
directement
évident pour nous...
Directement au plateau ou à la table?
À la table, d'abord. Et ce qui a été évident pour nous, en tout cas, c'était que cette femme qui est donc écrite en deux voix allait être jouée par une seule comédienne qui était moi, donc. Et que donc, j'allais prendre en charge ces deux lignes, en effet, que sont moi et toi. Il y a elle, en effet, qui apparaît à un moment donné, mais c'est essentiellement moi et toi. Et nous, c'est surtout ça sur lequel on a travaillé.
Voilà, donc il y a l'homme que l'autrice appelle lui, il y a la femme que l'autrice appelle toi et appelle moi, la femme que vous incarnez donc sur scène. Elle a donc deux voix, comme vous le disiez, Maëlys Ricordo. Vous avez écarté tout de suite l'idée, Céleste Germe, d'avoir deux comédiennes pour incarner chacune des voix. C'est des choses qu'on voit de temps en temps sur les plateaux de théâtre.
C'est même, je pense, comme ça que Pauline Peyrade a écrit le texte pour trois acteurs, en fait, actrices. Mais c'est sûr que, oui, c'est quelque chose qui nous a semblé évident. Ces deux voix, c'est les deux voix d'une femme schizée, on va dire, d'une femme dissociée par la violence sexuelle, en l'occurrence conjugale. Et ce qu'on voulait montrer avec Maëlys, c'était bien une femme dissociée et non pas deux femmes. Et c'est né là, le projet il est né là, je pense, et aussi parce que avec Maëlys, on a fondé toutes les deux le collectif. Et donc cette relation, je dirais, de metteuse en scène à actrice fondent les projets aussi, les définissent lesquels on fait. Et il y avait là, en effet, dans le dispositif d'écriture, un enjeu de jeu et de mise en scène qui était voilà, redoutable et qui nous a semblé magnifique.
Oui,
quoi.
Un enjeu de jeu JEU et presque voilà. De jeu JE aussi, et de toute façon.
Il y avait beaucoup de jeux.
Voilà, alors on va écouter justement un extrait de la pièce pour que l'auditeur, les auditeurs, parce qu'ils sont plusieurs, j'espère, puissent se rendre compte.
Tu boudes ?
Non.
Oh, tu boudes ? Tu boudes.
Ta gueule.
Pourquoi tu souffles ?
Je souffle pas.
Si c'est pour que tu fasses la gueule, je dirai à Manu que je peux pas aller avec lui, c'est tout ?
J'ai rien dit ! Je boude pas.
On est pas obligé d'être tout le temps collé non plus.
J'ai pas 12 ans. Je sais.
Tu fais la gueule et après faut que je devine. T'es chiante. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais c'est vrai, on sait jamais ce que tu penses. C'est difficile de savoir ce qu'il faut faire. Et puis pour moi, c'est pas très agréable, on dirait que tu me fais pas confiance.
Non, si.
On dirait que je suis un gros con qui va te bouffer si tu dis quelque chose, c'est chiant.
Arrête, tu pleures.
Non, vraiment, excuse-moi de te le dire comme ça, mais c'est vrai. Tu dis jamais rien.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Voilà, donc on entend à l'oreille, il y a une voix intérieure et une voix extérieure qui parfois se suivent d'ailleurs. Et donc votre personnage, Maëlys Ricordo, dialogue donc avec lui, donc avec son compagnon, avec l'homme, et dialogue aussi avec elle-même d'une certaine façon. Quoi. C'est une sorte de trilogue en réalité.
Exactement, c'est exactement ça. Elle dialogue avec elle-même précisément, puisqu'elle c'est ce dialogue intérieur qui va lui permettre de s'échapper en fait de cette relation toxique, de trouver la force en fait en se convainquant elle-même qu'elle va pouvoir y arriver. Mais en effet, elle est dissociée au point que c'est très difficile de se réunir et elle se réunit à la fin. Elle trouve cette voix unique, quoi.
Alors, le personnage est dissocié et la comédienne ?
Ah non !
Ah non, alors comment on fait pour apprendre ce texte comme ça, pour savoir très précisément d'un mot à l'autre ? Parce que parfois, dans la même phrase ou presque, on a vraiment l'impression que c'est une voix qui succède à une autre. Comment on fait justement ? Enfin, ça doit demander une concentration extrême avant et pendant la représentation.
Oui, c'est vrai, beaucoup de concentration, ça c'est sûr. Et puis après, je suis aidée quand même techniquement par Jérôme Tinsert qui, il y a un petit effet en fait sur cette voix intérieure qui me permet quand même d'accentuer, disons, ce rapport intérieur à cette voix-là.
Voilà, donc c'est un dispositif scénique et un dispositif sonore, très technique aussi. Céleste Germe, comment justement avez-vous travaillé avec l'ingénieur du son, je ne sais pas s'il y a un seul ingénieur du son ou s'ils sont plusieurs d'ailleurs, parce que là aussi c'est un travail, mais d'orfèvre, de métronome, quoi, c'est extraordinaire. Ça demande une très très grande précision.
Mais très vite, cette question de la dissociation donc, qui a été posée, qui est posée en fait par la rencontre, en fait. Le premier acte de cette pièce, c'est la rencontre entre cet homme et cette femme, et cette rencontre contient déjà beaucoup de désir, mais déjà de la violence. Et à ce moment-là, se scinde. Se disent aussi la femme, on pourrait dire, et donc c'est des choses qu'on montre très presque visuellement.
Alors on va parler du visuel dans un instant.
Après,
c'est indissociable, mais je pense que c'est plus clair de parler du son d'abord.
Tout à fait. En tout cas, sur la question du son, on parlait de lecture. Tout de suite, en fait, on a commencé à enregistrer des choses pour pouvoir faire entendre cette double voix qui parle en même temps, au fond.
Oui.
Donc en effet, Maëlys a plein de talents, mais ne sait pas parler en même temps, dire deux choses en même temps.
Mais donc la deuxième voix, elle est en direct ou elle est enregistrée?
Voilà, donc on a fait beaucoup de tests et il nous a semblé que là aussi l'enregistrement ne résolvait pas cette double piste, quoi, quelque part, d'une femme qui dit quelque chose et qui pense autre chose. Et l'enjeu finalement, l'enjeu de la pièce, c'est qu'elle parvienne en se faisant mémoire, on pourrait dire, en se rappelant des épisodes de violence en fait entre elle et lui, au moment où elle arrive à faire mémoire et donc à raconter, à faire récit, elle arrive à se réapproprier cette histoire et à partir. Et là, quand elle part, elle peut dire la même chose, en fait. Les deux voix peuvent se réaccorder, on pourrait dire.
Et donc tout est en direct, hein, sur le plateau. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de voix enregistrée. Ça, c'est très, très important. Donc, ce n'est pas seulement le traitement technique de la voix qui fait la différence, j'imagine, Maëlys Ricordo, dans votre façon de parler, dans votre façon d'articuler, dans votre façon de respirer. Vous faites aussi sentir la différence entre les deux voix ?
Oui, c'est vrai. Elle est plus petite, elle est plus intérieure, hein, quand même. Et après, je pense que c'est très important pour le vivant, en fait, aussi du spectacle, en fait, le fait de faire tout en direct. C'est aussi, dis-moi, pour jouer ce personnage-là, il est comme ça, quoi. Et du coup, ça me permet, en fait, d'être guidée. Ça guide mon jeu énormément, en fait, de faire toutes ces voix.
Alors, comment est-ce que vous avez noué votre relation, là, cette fois-ci, je parle du personnage, hein, entre la parole et la pensée? Est-ce que le silence, par exemple, c'est un élément d'articulation important entre les deux voix du personnage?
C'est intéressant, bien sûr. Après, c'est vrai que, étant donné que je joue les deux, il y a quelque chose où c'est, pour moi, il y a quelque chose de très technique et du coup qui demande j'ai peu de silence finalement, quelque part. Le silence existe, mais par ailleurs, dans les pauses, on a travaillé beaucoup quelque chose de très rythmé, notamment dans cette scène qu'on a entendue là, où il y a des pauses lourdes de sens, quoi. Mais du coup, dans mon jeu, c'est assez vif,
Oui, des pauses lourdes de sens, ça veut dire que le silence, ce serait une troisième voix encore pour le même personnage, Céleste Germe.
En tout cas, on est dans un espace mental, vous l'avez dit, et ça a à voir avec la question de la mémoire que j'évoquais juste avant. Et nous, on s'est raconté que pour pouvoir raconter cette histoire telle qu'elle était écrite par Pauline Perrade, c'est cinq parties, en fait, et c'est comme cinq fragments. Et tout de suite, le fragment appelle le silence. Qu'est-ce qu'il y a entre les fragments? L'invisible ou le silence. Or, le théâtre, bah, c'est un temps, c'est pas fragmentaire, quoi. Oui, c'est un temps, c'est une pièce, c'est une heure et quart.
Ce qu'on appelle l'ellipse aussi.
Voilà, exactement, l'ellipse. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette ellipse? Et on s'est dit, bah, finalement, c'est cette question de faire mémoire. Et donc, le dispositif travaille des silences aussi, des ellipses, de l'obscurité, de manière à pouvoir faire apparaître, finalement, cet espace mental en travail, quoi, de cette femme.
Voilà, faire apparaître. On va donc passer au visuel dans un instant, juste après Beriz sur RFI.
J'ai verrouillé la fenêtre, j'ai voulu me rencontrer, désiré de tout mon être, repéré de la bonté. J'ai essayé de m'attendre, j'étais toujours à l'aller. Je renaissais de mes cendres et retourne me brûler. Invente-moi du vin pour tout éteindre. J'ai cessé de me méprendre. Saveur d'un baiser sur une erreur que mon tendre serait sans doute effacée. J'ai arrêté de me vendre, j'étais toujours épuisée. J'ai failli ne pas entendre ce que tu m'as murmuré. Invente-moi des bras. J'ai décidé de me rendre, je ne peux plus résister. Je ne fais que me défendre contre toi qui veux m'aimer. Je ne veux plus rien comprendre, tu pourras tout dessiner. Je ne vais rien entreprendre, je n'ai plus rien à prouver. Invente-moi du temps.
en Bérise dans VMDN sur RFI avec la comédienne Maëlys Ricordo et la metteuse en scène Céleste Germe du collectif Das Plateau qui présente à Paris jusqu'au 4 mai le spectacle Point, un texte de Pauline Peyrade. C'est sur la scène du théâtre Sylvia Montfort et c'est Antoine Oppenheim qui joue l'homme, hein, le personnage masculin qui s'appelle Lui dans le texte de la pièce. Comment est-ce que vous avez abordé ce personnage masculin, Céleste Germe? C'est pas facile, hein, j'imagine, ce rôle-là, parce qu'il est moteur de l'action, puisque sans la violence qu'il dégage, il n'y a pas d'histoire. Et en même temps,
il est
en toile de fond, en fait.
Il est en toile de fond, tout à fait. Et on a beaucoup discuté avec Antoine du mal, alors M-A-L, de qu'est-ce que c'est aussi jouer, parce que c'est aussi des très grands acteurs qui jouent des qu'est-ce que l'âme humaine peut avoir de mauvais, et des très grandes actrices. Et aussi, on a beaucoup discuté avec lui de la banalité. Parce qu'il y a quelque chose de très quotidien, d'ailleurs, dans la grande scène qu'on a entendue, dont on a entendu un extrait, ça se passe dans le quotidien d'un couple. C'est aussi, le texte montre aussi comment la violence de la et la question de la domination s'infiltre, finalement, dans toutes les petites choses. Et donc, il fallait être à la fois trouver un endroit de commun, de banal, et en même temps, tous les hommes ne violent pas leur compagne, quoi. Et donc, à un moment, même s'il y a du commun, il y a un saut, quoi. Donc, on a travaillé là-dessus avec Antoine beaucoup, quoi. Comment on pouvait être, voilà, à la fois dans quelque chose qu'on peut tous reconnaître, plus ou moins, et pas seulement.
Voilà, mais le spectacle est vraiment centré sur le personnage féminin et nous fait entrer, hein, dans le tourbillon des pensées du personnage que Maëlys Ricordo incarne sur scène à travers les mots qu'elle a prononcés, les mots qu'elle a pensés, les mots qu'elle a entendus aussi, les siens ou ceux de son compagnon.
Tu n'aimais pas ça.
Toi et moi, on est indestructibles.
Moi, pas de l'amour.
Et tu comprends pas que je t'aime?
Quelqu'un qui t'aime, tu ne tournes pas cette fois-là.
J'aime t'aimer.
Avant de dire quelque chose.
Ta tête.
Ce n'est pas de l'amour.
You can't hurt me.
Droite,
cause I know you love me.
I must be insane.
Putain,
you're a little perfection.
Pute.
C'est la première fois.
Il tire sur mes cheveux.
You can't
écrase
hurt
mon
me cause I know you love me.
Tu ne mets pas ça. Ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de résistance interne. Tu es entré.
Je fais ça pour toi.
En résistance. Je préfère être avec
toi. Salut.
Sur mes cheveux. Salut.
Tu t'as peur de quoi t'as peur?
Quoi?
Je suis toujours là pour toi.
Mes yeux nuls, là, j'ai compris que tu pouvais partir.
Petite chienne.
S'énerve. Tu as mis tes rollers, tu les as bien tirés.
Alors on le sent bien dans cet extrait, hein. Il y a les mots, la force de la langue de Pauline Peyrade, il y a le travail sur le son et l'atmosphère sonore qui s'en dégage, mais il y a aussi le visuel, Céleste Germe. D'ailleurs, sur les feuilles de salle et dans les programmes de théâtre, on vous présente comme metteuse en scène, mais aussi comme architecte. Quelle différence vous faites entre l'architecte et la metteuse en scène?
Il y a une différence de contemporanéité. Je suis metteuse en scène actuellement et j'ai fait des études d'architecture.
Donc, ça se voit.
Peut-être, oui. En tout cas, j'ai fait ces études parce que, en voulant faire de la scénographie, en fait. Et c'est vrai que ça a été mon entrée dans la question de la mise en scène, a été par la question de l'espace et de l'agencement spatial et de ce qu'un espace peut raconter.
Voilà. Et là, le travail sur cette pièce est aussi très important parce qu'il s'agit donc de montrer au spectateur l'espace mental, en l'occurrence du personnage féminin, à travers la voix, à travers les sons, à travers les mots, et donc aussi à travers l'espace. En plus, il y a un seul espace en fait dans lequel se déroulent toutes les scènes, hein, les différents lieux du récit sont sur le même plateau. Donc il y a la rêve partie dans laquelle les deux personnages se rencontrent. Il y a la maison du bord du lac, il y a l'appartement parisien de l'homme avec des éléments concrets. Il y a un lit, il y a une lampe, il y a un fauteuil, il y a une petite table avec un tourne-disque. Et tout ça, vous avez travaillé avec un scénographe, ouais. James Brandilli.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé? Comment vous avez justement tous les deux imaginé ce que les spectateurs voient sur scène?
Oui, et ben ça, c'est un travail qui... Alors avec James, on travaille, Maëlys et moi, avec James depuis quand même assez longtemps maintenant. On avait déjà fait un projet qui utilisait des miroirs et des miroirs sans teint comme une manière de montrer, là encore, ce qui est de l'ordre du mental et du psychique avec une importance égale ou en tout cas différente de celle qu'il y a dans le monde habituel, quoi. C'est-à-dire que comme si le théâtre pouvait être un lieu d'apparition de la chose mentale, je pourrais dire. Et en l'occurrence, c'est vrai que dans cette scène dont on a entendu un extrait qui s'appelle Point P-O-N-T-S,
voilà.
C'est un moment où le personnage féminin cherche à sortir de cette situation d'emprise. Et donc c'est un moment où les miroirs diffractent son image en tous sens. Et elle se cogne quelque part, comme dans une galerie des glaces. Elle se cogne contre elle-même, elle se cogne contre ce qu'elle n'arrive pas à... Comment reprendre un chemin de liberté, quoi. Elle se cogne contre lui-même, mais contre elle-même aussi. Et donc voilà, ça nous semblait important... important à montrer et voilà comment est-ce que on est empêché, bien sûr, enfin le dispositif d'empêchement de ces situations d'emprise est bien sûr posé par quelqu'un, en l'occurrence lui, mais aussi intégré, et c'est aussi contre soi-même qu'on se bat, quoi.
Voilà, et d'où effectivement l'intérêt du jeu de miroir. Il y a des tulles aussi, hein, parfois on a l'impression que le corps de Maëlys Ricordo devient même un hologramme, hein. Je ne sais pas, ouais, si c'est vraiment ça.
C'est
ou...
un principe,
en tout cas, c'est l'impression
qu'on peut
avoir. Parfois, donc, il y a un dédoublement du corps, parfois même un détriplement, je ne sais pas si le mot existe. parfois, il y a des apparitions soudaines, etc. Le spectateur voit exactement la même chose, quel que soit l'endroit de la salle où il se trouve ?
À peu près quand même. L'ouverture en plus du théâtre, qui est le théâtre Sylvia Montfort, qui est une grande scène très ouverte et très très bel endroit, quoi, pour présenter le spectacle, permet vraiment une très bonne visibilité, ouais, de l'ensemble des spectateurs.
Et le corollaire de tous ces jeux de miroir là, Maëlys Ricordo, est-ce que c'est que bien vos gestes à vous, vos déplacements aussi, sont très précisément chorégraphiés ? Est-ce que vous avez, je sais pas, des points de repère comme ça sur scène pour vous placer à chaque fois aux bons endroits ?
Absolument.
Ah, aussi. Donc, travail de précision mentale, travail de précision au niveau des mots, au niveau de la voix, et travail aussi de précision au niveau du corps.
Oui, c'est redoutable. Oui, tout à fait. Beaucoup de précision, et en même temps, moi, j'aime beaucoup travailler dans la précision, parce que j'ai l'impression que c'est dans quelque part là-dedans que je trouve le plus de liberté.
Donc, aucune place pour... l'originalité, pour...
on la travaille très longuement.
L'improvisation, voilà, je cherchais le mot.
L'improvisation. Pour l'improvisation, assez peu de place, à part dans cette partie qu'on a entendue là, dans Point, à vrai dire, c'est totalement pas mal d'improvisation et d'écoute avec l'acteur pour voilà, rebondir sur des phrases qu'on dit l'un et l'autre. Donc si, à ce moment-là, par exemple, les déplacements, voilà, il y a des entrées et sorties qui sont calées, mais c'est comme une partition, quoi. On a des choses calées, mais on peut improviser dedans.
Voilà, et c'est ainsi que le spectateur entre donc dans l'espace mental de votre personnage, dans ses questionnements, dans son traumatisme, mais aussi dans ses rêves.
Je vois la forêt. Et dans la forêt, il y a l'homme. Et au pied de l'homme, il y a le lac. Le ciel est dans le lac. Je suis nue. Un poisson immense danse autour de moi. Il est beau, il brille. Des scènes d'amour sont tatouées sur ses écailles. Je le sens bouger sur mon ventre. Ça chatouille, je souris. Des bulles glissent entre mes dents. L'homme me regarde. Il est beau. Je sens ses yeux. Il ne regarde pas mon corps, il sourit. L'eau s'infiltre par tous les pores de ma peau. Elle caresse mes muscles de l'intérieur. Ça chatouille. Je tousse. Je tousse encore.
Alors, dans ce dispositif visuel, Céleste Germe, est-ce que vous recherchez, visuellement parlant, une forme de beauté ?
Oui.
C'est important, l'esthétique.
Alors, la beauté, en tout cas. C'est vrai que c'est même une caractéristique, je pense, peut-être, du travail qu'on mène avec cette équipe dans Death Plateau, c'est peut-être de penser que la beauté nous rassemble. chaque spectateur et nous, quoi. Et que ça nous permet aussi de raconter des choses très difficiles, parce que quand même cette histoire n'est pas facile.
Non. Et ce mais spectacle la beauté n'est peut pas aider à dire l'horreur.
Je crois. J'ai l'impression que la beauté est une issue, et peut-être que l'humain peut faire ensemble, oui, la beauté, l'art en tout cas. Alors, est-ce que c'est que la beauté, l'art, je ne sais pas, mais en tout cas que cette expérience-là nous permet de traverser et de se parler ensemble de choses très difficiles.
Ouais, il y a même une dimension poétique aussi, visuellement parlant, mais aussi à travers la langue de Pauline Peyrade.
Oui, ce moment qui est en effet un rêve, on ne sait pas bien si... Enfin, il y a un peu deux interprétations où c'est cette femme qui rêve et qui est éveillée par l'effraction de l'homme et par ce viol que nous allons raconter. Et donc, quelque part, c'est tout ce monde onirique qui est interrompu brutalement par la violence du viol, quoi. Ça, c'est une interprétation. L'autre interprétation, c'est que pour pouvoir raconter ce viol-ci, il faut traverser les méandres de l'esprit et aller chercher tout au fond l'endroit traumatique, quoi. Donc il y a quelque chose, en tout cas, là aussi, dans l'écriture de Pauline Peyrade, elle pose des dispositifs qui font réfléchir vraiment à ce qu'il y a à dire de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, nous, artistes, de cette chose-là, quoi.
Oui, et puis il y a aussi la bande-son, la musique que l'on entend, qui participe à la fois à ce côté poétique et à ce côté malaisant, quoi. Là aussi, on est vraiment dans quelque chose de très composite, de très curieux. Ça suscite le malaise, quoi. Ça, c'est important aussi que le spectateur se mettent au diapason, parfois même presque physiquement, du traumatisme mental du personnage.
Alors, sur la musique, il faut dire que Jacob Steinbach, qui l'a composé, a créé le collectif avec nous, donc la question de la musique est toujours extrêmement importante comme rapport sensible, en effet, à l'espace théâtral. Alors, le malaise, je ne sais pas bien répondre à ça. Je ne suis pas sûre que ce soit une recherche. Après, il y a une recherche de relations sensitives. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que la manière d'articuler l'espace visuel, ces miroirs qui créent aussi des dispositifs un peu magiques aussi, d'apparition, de disparition. On comprend pas où sont vraiment les acteurs. C'est un dispositif qui se renouvelle beaucoup aussi. Et la musique, et l'image, et le jeu des acteurs, tout ça est en effet très quand même, enfin vous aviez raison de dire, très très tenu, très décidé, très orchestré. Et c'est vrai que on a un peu la conviction que cette orchestration permet d'activer des cordes sensibles différentes chez le spectateur. Donc peut-être le malaise aussi. Voilà, je sais pas si c'est cette chose-là précisément qu'on recherche, mais en tout cas voilà, une vibration. Presque physique aussi, mental, mais aussi physique.
Complètement. Oui, voilà. Alors, on a beaucoup parlé depuis le début de cet entretien du paysage mental du personnage féminin et donc de cette dualité des voix qui peu à peu le dessine sur le plateau. Il y a un moment où les deux voix font bloc, c'est le récit justement du traumatisme du pire, le récit du viol, le récit du viol conjugal. Ce récit, il est à la première personne, il est au présent de narration et il glace le sang.
Son sexe est dans ma bouche. Sa main sur ma nuque. Il pousse. J'essaie de me dégager. Je ne sens plus mes bras. Son poing dans mes cheveux. Il s'agrippe, s'attire. Il pousse encore. Une mèche de cheveux dans ma bouche. Je secoue un peu la tête. Il pousse plus fort. Je secoue la tête. Il serre plus fort mon cou. Ça fait mal. Il appuie très fort. Ma mâchoire cède. Il s'enfonce. La salive coule sur mon menton. Des bruits terribles s'échappent de mes lèvres. Je crie.
Est-ce que vous êtes longtemps interrogé, Céleste Germes, sur la façon de dire ce passage-là qui, je pense pour personne, ni pour vous, ni pour le spectateur, est un passage anodin?
Oui, ça a été un grand travail avec Maëlys. On l'a abordé assez tardivement, d'ailleurs, si je me souviens bien. En fait, on a commencé à essayer des choses à tâtons. Et tout, dès qu'on mettait de l'émotion, dès qu'on montait un peu en voix, moi, je supportais rien, en fait. Je disais, non, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. On peut pas dire ça de manière belle, justement, ou laide. Ça ne supportait aucun artifice. Et à un moment, on s'est dit, mais au fond, il faut juste dire, en fait, et être le plus à nu possible, le plus dire pour qu'on puisse entendre. Et pour qu'on puisse entendre, si on hurle, on peut pas entendre. Donc, on a cherché avec Maëlys à trouver un endroit de parole absolument sans violence. Voilà. Pour que la vraie violence puisse être dite. C'est-à-dire la violence du viol. Et pas, c'est pas le fait de la question du viol qui est, c'est le viol lui-même qui est violent, c'est pas en parler, quoi.
Oui, les mots et ce qu'ils décrivent se suffisent à eux-mêmes, quoi.
Voilà, exactement. Façon, il fallait être le plus à nu.
Ricardo, le plus à nu, le plus neutre possible, le plus sobre possible. Ça se travaille, la sobriété, la simplicité. Maëlys Ricardo, beaucoup d'artistes que l'on reçoit dans cette émission nous disent faire simple, c'est extrêmement compliqué. Vous confirmez?
Ouais, en effet. D'autant que là, je suis vraiment face au public.
Vous êtes très très près de lui,
le plus proche possible de lui.
Voilà. Bon, il y a une fosse hein, au théâtre Sylvia Montfort, mais j'imagine que dans toutes les salles, la situation n'est pas la même. Parfois, vous êtes quasiment à touche-touche avec les premiers rangs.
C'est ça. Parfois, je vois encore plus les spectateurs et c'est vraiment cette idée de parler, quoi, de leur parler, de se parler. Et il faut prendre ce temps, il faut avoir cette concentration-là.
Comment est-ce que vous gérez justement le regard sale? Parce qu'on parle toujours de ce fameux quatrième mur au théâtre. Il existe ce quatrième mur pour vous? Il y a une communication avec la foule des spectateurs ou avec chacun et chacune des spectateurs ou spectatrices dans la salle? Comment vous gérez le regard lorsque vous prononcez ces mots qui décrivent effectivement quelque chose d'incroyablement inacceptable?
À ce moment-là, en effet, le quatrième mur, il n'est pas là. C'est sûr, et j'adresse en effet chaque chose au public en prenant ce temps-là de regarder les gens. Alors c'est oui et non parce que je ne les vois pas vraiment. Donc il y a une espèce de faux regard, mais pour moi je leur parle, pour moi je les regarde un à un et je les presque droit dans les yeux, même si je ne vois pas leurs yeux.
Alors il y a aussi tout le travail sur la façon de dire et notre réalisateur va repasser l'extrait qu'on vient d'entendre et je voudrais que les auditeurs fassent bien attention au sens, bon ça forcément, mais aussi à la façon dont vous dites les mots, au rythme que vous leur imposez. On écoute.
Son sexe est dans ma bouche. Sa main sur ma nuque. Il pousse. J'essaie de me dégager. Je ne sens plus mes bras. Son poing dans mes cheveux. Il s'agrippe, s'attire. Il pousse encore. Une mèche de cheveux dans ma bouche. Je secoue un peu la tête. Il pousse plus fort. Je secoue la tête. Il serre plus fort mon cou.
Voilà, et quand on se reporte au texte précisément, Maëlys Ricordo, on se rend compte que les phrases à ce moment-là, elles sont écrites de façon très brève. Toutes les phrases sont très courtes. Il y a une ponctuation, des points qui sont extrêmement rapprochés hein, sur chacune des lignes. La rythmique, le souffle, comment vous avez travaillé ce texte pour ce moment précis, là, on a vraiment l'impression de quelque chose de très musical, de très scandé, on a presque l'impression d'un métronome, d'une certaine façon.
C'est vraiment une chose après une autre, quoi. C'est essayer de raconter, en effet, ce qui est...
Enfin, mais on raconte ou on dit?
Ouais.
On le dit plus, quoi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le texte est tellement incarné qu'il faut que vous soyez désincarné. C'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti.
C'est ça.
Et il y avait aussi, il y a aussi un parcours. Il y a aussi un parcours dans le spectacle de Maëlys qui joue donc elle. Entre le public et ce dispositif d'image extrêmement, comme on en a beaucoup parlé, quoi, visuel, fictionnel, on pourrait dire. Et c'était très important pour nous que, en effet, que on est en train de raconter ça, quoi. Et on est en train et raconter ça, c'est important aujourd'hui. Ça nous semblait qu'on a créé le spectacle crucial de participer à ce qu'on pourrait dire un débat collectif de société, quoi, sur la question des violences sexuelles et des rapports entre les hommes et les femmes. Et donc, elle vient à plusieurs reprises, en fait. Elle parle au public, elle part du public, elle rentre dans ce dispositif pour raconter son histoire. Et là, en effet, elle en sort. Elle en sort parce que la seule manière de pouvoir raconter ce viol, c'est de se rapprocher au plus près, quoi, d'être le plus proche possible du public, de faire, comme ce que je dis, vraiment, de faire le moins violence possible au public pour que la vraie violence apparaisse, quoi. Et sinon, on s'arrête, on a l'impression qu'on s'arrête à des fausses violences quand on parle de viol. Ah oui, le viol dans tel tunnel, ah oui. Mais que, en fait, on ne sait pas, comme si on ne prenait pas le temps de se rendre compte que, ben, un viol, c'est appliquer une force, c'est appliquer du poids, c'est faire mal à différents endroits du corps. Enfin, c'est pas juste un viol comme on l'imagine et il fait noir et d'un coup il y a un viol, quoi. Donc sortir de ces représentations aussi cinématographiques, sortir de l'imaginaire du viol. Voilà, peut-être que c'était ça, c'était sortir de l'imaginaire du viol absolument pour qu'on puisse juste se dire. Et c'est vrai que le texte est extrêmement objectif. Part du rêve dont on a entendu un extrait pour se faire, donc part de cet onirisme pour se faire totalement pragmatique, je pourrais dire.
Pragmatique et même clinique. Hein,
clinique, vraiment, voilà. Clinique, ouais, c'était le mot d'ailleurs.
Ouais. Et dans la salle, à ce moment-là, vraiment, chacun retient son souffle. On ose parfois à peine respirer. C'est un petit peu la même chose, d'ailleurs, dans le monologue qui clôt le spectacle, qui est très différent en même temps. Hein. Donc, lorsque le personnage, je ne sais pas trop spoiler de le dire, parce qu'on le sent quand même dès le début de la pièce, lorsque le personnage prend la fuite, c'est important, ça, parce que le spectacle se termine sur une note positive, sur une note d'espoir. C'est ça qu'il faut retenir de la pièce, pour vous, Maëlys Ricordeau, que même quand on a subi le pire, on peut se reconstruire et s'en sortir.
Ouais, c'est très important en effet que c'est possible. En fait, c'est possible de partir déjà. Enfin, déjà de se dire que on peut partir d'une relation toxique. On peut y arriver et on peut y arriver notamment ensemble. Et en effet, c'est pour ça que au départ, je commence dans le public et je finis avec tout le monde. Quoi, c'est aussi un sujet évidemment de société et on pourra s'en sortir ensemble, tous ensemble, tous ensemble.
Oui. Alors, vous faisiez référence, Céleste Germe, à l'actualité, hein, qui est toujours très très forte. Et il y a justement en France des textes qui régulièrement sont publiés, encore hier ou avant-hier, dans la presse à propos de ce que l'on appelle le MeToo théâtre. Est-ce que vous pensez que on va dans le bon sens, que les verrous sont en train de sauter?
On va absolument dans le bon sens. Après, il reste beaucoup de chemin à faire, c'est sûr. Et d'ailleurs, enfin, la question de la domination ne concerne pas que les femmes. Enfin, en tout cas, on a fait ce lien avec on parlait du petit chapeau rouge tout début d'émission qu'on présente du 15 au 18 mai.
Au même endroit.
C'est ça, et c'était hyper important pour nous de montrer ces deux spectacles, puisque c'est presque. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit un jour, mais en fait, c'est la même histoire. Et dans les deux cas, les spectacles se terminent bien. Et voilà, oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'important.
Merci. Merci beaucoup à toutes les deux, Maëlys Ricordeau et Céleste Germe. Point de Pauline Perrade, donc encore à l'affiche du Montfort jusqu'au samedi 4 mai. Et ensuite, donc du 15 au 18 mai, comme vous le disiez, place au Petit Chaperon Rouge, toujours avec le collectif d'As Plateau. Merci.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Bonjour Hugo Casaligno.
Bonjour, bonjour à tous.
Comme tous les mois, vous êtes avec nous pour nous présenter quelques nouveautés de la playlist RFI, avec pour ce mois de mai des artistes que nous avons reçus dans VMDN.
Oui, comme quoi on est raccord à RFI. Je voulais commencer par le français Bigaranx, le poète du raga. Allez, rappelons rapidement qui il est. Hein. Gabriel Piotrowski, plus connu sous le nom de Bigaranx, est originaire de Tours. Alors, il est peintre, producteur, mais il est surtout connu pour être un MC ou un toaster chez les jamaïcain.
Un toaster, ça veut dire qu'il joue du grille-pain à ses moments perdus?
Ah, quel bout en train vous faites. Non, mais par analogie, le terme vient bien du grille-pain. Le toaster, c'est celui qui fait sauter les mots sur de la musique. Je m'explique. À partir des années 50-60, hein, lors de leur sound system, leur fête, les DJ jamaïcains annonçaient le disque suivant en parlant sur de la musique, sur la musique qu'ils passaient. Puis ils sont mis à le faire en rythme. D'ailleurs, on attribue un peu les origines du rap à ce phénomène. En 2012, Bigaranx va sur l'île au reggae tourner un documentaire où on voit les Jamaïcains complètement scotchés par ce jeune Français qui toaste plus vite que son ombre.
Et en playlist RFI en mai, le rang des étoiles.
Au premier rang des étoiles, les nuages te cachent, mais moi je te vois. Tu parles aux planètes, je parle aux panneaux. Skip, y'a deux, trois anges qui squattent chez toi. T'es parti, moi je suis resté. Et l'eau qui coule de mes yeux n'appartient pas à Nestlé. Tu nous vois en bas, allongés dans le ciel, pas dans une boîte en bois. Les nuages te cachent, mais moi je te vois. Tu parles aux planètes, je parle aux panneaux. Skip, y'a deux, trois anges qui squattent chez toi. T'es parti, moi je suis resté. Et l'eau qui coule de mes yeux n'appartient pas à Nestlé. Tu nous vois en bas, allongés dans le ciel, pas dans une boîte en bois.
Oui, aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, hein, Bigaranx, c'est plus reggae que raga, comme sur ce titre « Rang des étoiles », plein de poésie.
Le second habitué de VMDN que vous avez sélectionné pour cette nouvelle playlist, c'est l'antillais David Walters.
Oui, hein, vous l'avez reçu l'année dernière pour la sortie de son génialissime album Soul Tropical, bien sûr en playlist RFI. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le voir en concert récemment. Je le conseille vraiment à tout le monde, c'est super festif. Et on ressort avec la banane.
Oui, il est extraordinaire.
Et si vous me le permettez, j'aimerais reprendre à mon compte vos mots à propos de son album, car David Walters, c'est, je vous cite deux points, ouvrez les guillemets, une joie de vivre, un appétit et un amour de la musique qui redonne de l'énergie, même dans les difficultés.
Je vois que vous avez de belles références journalistiques, mon cher Hugo. Alors, bon, en fait, c'est exactement ce que j'ai dit à l'époque, si j'ose dire, à l'image d'ailleurs de son nouveau single qui s'appelle Kissa.
Kissa nous paie, fait pouce, sauver l'homme mou. Hein.
Qu'est-ce qu'on... Super accent créole.
Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'amour, scande David Walters dans son nouveau single Kissa, où il demande le pardon, il espère le retour de sa bien-aimée. En effet, c'est un peu triste, mais la chanson est plutôt groovy, très dansante, très rythmée à la bossa nova. Bref, la joie de vivre dans la difficulté, quoi. Allez, toujours chez Heavenly Sweetness avec Guts, toujours pas très loin lui aussi, David Walters avec Kissa.
Ça peut pas oublier, tout le monde crie, allez s'en virer, plaît, moi c'est plaît,
Kissa,
pas nous l'autre chance, dis-moi, awa, allez ou pardonnez-moi, awa, garde sans doute, dis-moi, awa,
Kissa,
on aime encore, dis-moi, awa, pécouez moi, dis-moi, awa, chiquissa, dis-moi, awa, hey, si l'amour n'est jamais mort, l'amour pas jamais.
Kissa, David Walters dans VMDN. Allez, on va découvrir à présent, Hugo, un groupe suisse nommé Concolo Orchestra. Un groupe qui fait de l'afrobeat.
De l'afrobeat à la Fela Kuti, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et en effet, ça nous vient de Zurich, en Suisse. Concolo Orchestra s'articule autour du multi-instrumentiste, producteur et compositeur Alexis Malefakis.
Mais c'est une belle découverte parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur ce groupe.
En effet, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'ils viennent de sortir leur premier album Future Past chez Rocafort Records. Un 8 titres afrobeat dans la maîtrise totale du genre et du son, avec des invités comme les Ghanéens Eric Owozo aux percussions et sœur Franck Kalikari au chant, un autre chanteur, le Congolais Kitio Batola. À la programmation musicale, on a retenu le titre Blue Jay avec la chanteuse sud-africaine Nongoma, un pur régal.
Children, bring love, peace and harmony.
Ouais, ça dure 8 minutes comme ça, on s'en laisse pas. Allez, pour terminer, Hugo, on part en Amérique latine, au Venezuela, avec le groupe Rawayana.
Rawayana, le groupe de Caracas qui ne cesse de prendre de l'importance. Hein. Ils ont déjà été nominés au Grammy, par exemple. Et c'est un signe, on a pu les voir récemment chez nos confrères de la radio publique américaine NPR et leur fameux programme Tiny Desk.
Vous avez la recette de leur succès ?
Écoutez, les 4 musiciens de Rawayana commencent en 2007 et ils sont surtout connus pour jouer du reggae. Et je pense qu'on peut apprécier leur originalité justement grâce au fait qu'ils vont toucher et mélanger beaucoup de styles, toujours très groovy, du R&B, du funk, du reggaeton et même de la salsa. À ça, vous rajoutez une forte présence sur les réseaux sociaux, des textes pleins d'humour et d'engagement comme sur leur album précédent, très critiques contre les politiciens et la situation au Venezuela. Et puis ils sont à milieu des clichés actuels de la musique latine. Non, perso, je suis complètement fan. Allez, le mieux c'est de les écouter avec leur nouveau single Game Over, une exploration ludique et franche de l'amour inattendu, comme lorsque l'on tombe amoureux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout ça sur une musique très festive. Allez, on y va, on peut y aller.
Todos quieren algo del cachetón, pero para ti la mejor ración. Creo que mi alma es una canción, de esas que te cambian la percepción. Obligo tipo Tini, hecho por los dioses, un booty divino, hecho se va a nieve. Sos de poliamor, ya no me entretiene, como dijo Tangana. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. Ahora tu mamá, demasiadas mujeres, tu hermana. Dile a la vecina que sabes que está divina, que no me mire así, me jode la disciplina. Titi me preguntó si tiene mucha novia. Yo le dije que sí, hasta que te conocí. Tú eres mi VIP, tú eres mi VIP.
Game over, esa actitudcita me trae. Game over,
claro que sí.
Bailando divino, esto es game over. Game over. Yo te dije que un besito no me iba a enamorar. Y apenas toqué tu labio, ya me quería casar. Bien cabrón, que se siente bien cabrón. En verdad, bien cabrón, que se siente bien cabrón. En verdad, yo te dije que un besito no me iba a enamorar. Y metiéndote en mi cama, ya me quería casar. Bien cabrón, que se siente bien cabrón. En verdad, bien cabrón, que se siente bien cabrón. En verdad.
Allez, tous ces titres ainsi que le reste de la playlist officielle RFI, vous les retrouvez sur notre site musique.rfi.fr et sur toutes les plateformes musicales.
Bien évidemment, allez, on termine avec les Vénézuéliens de Rawayana. Merci Hugo. Dans un instant, le journal en français facile. On se retrouve demain avec l'écrivaine belge Emmanuelle Pirotte pour un roman absolument jubilatoire, flamboyant, crépuscule d'une vieille conformiste. C'est aux éditions du Cherche Midi et vous m'en direz des nouvelles.